7h17, Pierre-Yves, bonjour.
Bonjour.
Tu commences avec une tabarouette de questions, toi, pour 2019. Investir dans l'immobilier ou dans les actions?
Oui, le faux dilemme, j'ai jamais senti dans les courriels des auditeurs en 3 ans autant de détresse, de questionnement, d'inquiétude. On me questionne beaucoup sur les taux d'intérêt, sur la retraite, sur comment investir en immobilier ou en bourse. Et on me dit souvent, c'est un faux dilemme entre les deux. Les gens se débattent. Qu'est-ce que je dois prendre entre les deux? Il y a un site qui s'appelle Zoukaza, qui a questionné, un site qui est lié à l'immobilier, qui a questionné les gens. Et 68% des propriétaires de longue date croient que l'investissement immobilier est plus sécuritaire et plus efficace pour s'enrichir. Évidemment, quand ces gens-là font ce témoignage-là, souvent, ils sont propriétaires depuis longtemps, n'ont peut-être pas calculé tout l'intérêt qu'ils ont payé, l'inflation, les taxes foncières, les réparations ou le coût de renonciation. Mais le site a fait une analyse. Ils ont dit, comparons le rendement de l'immobilier pour un an. Pas sur une vie, là, c'est pour un an pour montrer aux gens que ça dépend d'une année à l'autre. Ils ont fait le calcul suivant. En 2018, ils ont calculé le rendement de l'immobilier par rapport à un taux sur un taux de placement sur un compte d'épargne à haut niveau, c'est-à-dire 1,1%. On a comparé aussi avec le TSX qui a perdu l'an dernier 11% de façon ponctuelle et aussi à un indice sur les obligations qui a gagné 1,5%. Et on a vu que dans un marché comme Toronto ou le Grand Toronto, l'immobilier a gagné 2% en valeur. À Vancouver, l'immobilier a perdu 1,7% en valeur et à Calgary, 0,9%. Donc, sur le court terme, la bourse, l'immobilier, ce sont des choses qui peuvent s'équivaloir. Ça dépend dans quel titre vous investissez et en immobilier, évidemment, dans quel secteur on investit. On peut être chanceux ou malchanceux. Par contre, ce que le site souligne, c'est qu'il y a un resserrement des conditions immobilières, c'est-à-dire les conditions de prêt, hausse des taux d'intérêt, déficit d'entretien immobilier. Mais l'immobilier peut quand même être un levier financier intéressant. Si vous avez un immeuble à revenus et que vous réussissez à couvrir vos coûts avec les loyers, ça c'est si vous êtes chanceux, vous allez être capable de créer de l'argent avec de l'argent des autres. Et ça, ça vous permet de accumuler de l'argent net d'impôts ou avec faible d'impôts grâce au paiement d'intérêts. Mais il y a aussi une question de confiance. Quand on regarde du côté de la bourse, on se revire de bord et on se dit « OK, qu'est-ce qui arrive depuis le début de l'année? » Ben, Paul, depuis le début de l'année, je sais pas si tu as regardé ça pendant tes vacances.
C'était pas si pire.
La bourse nous sourit. 4,6% de gains depuis le 1er janvier sur le TSX, puis aux États-Unis, 3,6%. Évidemment, avec les trumpitudes, avec les folies, les guerres commerciales, les incertitudes, beaucoup de volatilité s'en viennent. Et ni un ni l'autre peuvent nous garantir quelque chose. Donc, la recette...
Mais je vais te poser une autre question plus technique. Tu sais, les actions, t'achètes, puis tu regardes aller ça. Pas, tu peux pas rien faire d'autre que ça. Là. Dans le cas de l'immobilier, là, quand tu achètes, il faut que tu t'impliques.
Là, tu as raison. Tu peux pas être un propriétaire immobilier passif. Tu peux investir, par contre, dans des fonds immobiliers.
Oui, côté en bourse, ça c'est sûr.
Eux te permettent d'investir en immobilier sans avoir les deux mains dedans. Mais comme tu l'as dit, souvent, les gens sous-évaluent que le temps qu'on passe là-dedans à tirer des joints, peinturer, aller voir ce qui coule chez le locataire. Ça, c'est pas rémunéré. Alors, c'est pour ça qu'une diversification, autant pour avoir votre maison personnelle ou le loyer ou les placements en bourse, c'est ça la clé. Mais il n'y a rien qui est garanti. Donc, je peux pas dire aux auditeurs, achetez-le ou achetez-le, mais le risque immobilier, il est concentré. Concentrez votre argent dans un seul titre, c'est-à-dire votre maison ou votre immeuble.
OK. On va parler maintenant d'une offre d'un concessionnaire automobile.
Ben, en fait, c'est plusieurs concessionnaires, mais ma blonde a reçu une offre de son concessionnaire qui lui dit « Oh! Vous arrivez à quelques mois de votre terme de paiement. Location, achat, vous pouvez changer de voiture. On peut vous garantir les mêmes paiements avec une nouvelle voiture. » Hey, là, c'est alléchant. Avant la fin de ton contrat, on t'offre l'offre de continuer les mêmes paiements, mais pour une nouvelle voiture. Alors, qu'est-ce que le concessionnaire veut derrière ça? Si ton paiement arrive à échéance dans 4-5 mois, le concessionnaire se dit, attends une minute, là. Si lui, dans 4-5 mois, il a la chance, là, ça se peut qu'il arrête de payer puis qu'il garde sa voiture pendant 4-5 ans,
ben
puis
oui.
Il n'y a plus paiement de char. Ça se peut aussi qu'il aille chez le concurrent s'acheter une nouvelle voiture.
Exact.
Donc, il est prêt à perdre une portion de son paiement pour compenser le fait que tu vas te réengager pour 5, 6, 7 ans. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que les constructeurs sont pas fous. Là, ce qu'il va avoir bientôt, ça va être que la voiture va être considérée comme de la propriété intellectuelle. Et quand tu vas aller faire réparer ta voiture ailleurs que chez le concessionnaire, éventuellement avec les niveaux de complexité de l'informatique, on va dire que tu joues avec la propriété intellectuelle, donc que tu n'as pas le droit. Donc, plus on s'engage vers un concessionnaire, plus il y aura des réparations chez le concessionnaire. La garantie va être en conséquence du fait que tu fais réparer chez le concessionnaire. Donc, acheter une nouvelle voiture, c'est pas juste garantir des paiements de voiture, c'est garantir des paiements d'entretien, garantir des paiements de mise à niveau. Garantir des changements d'huile, des changements de pneus. Donc, le constructeur, ce qu'il veut pour maintenir ses états financiers, c'est de vous garder dans des paiements mensuels à vie. Donc, chaque fois que vous venez de proche de l'échéance, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il te fait une nouvelle offre, il dit
on te laisse pas partir.
Ben non, puis viens reste avec nous. Puis la cerise sur le sundae, on va t'offrir un ou deux changements d'huile gratuits dans l'année. Hey Paul, tu vas-tu garder un nouveau char ou acheter une nouvelle voiture pour 80$ de changement d'huile? Ben, la réponse, c'est non, ça vaut 30 000 une auto. Donc, attention aux offres alléchantes. Quand ta voiture est payée, c'est le Klondike. Parce que tu peux rouler avec sans payer personne, sauf l'essence, l'entretien. Mais c'est quand même jouissif de quitter le concessionnaire quand même à ce niveau-là.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne semaine. Il est 7h23.